talk about neighbors on the front porch. I wonder if they know we're moving. Hope they don't know my name. À l'été 2019, j'occupais un emploi saisonnier sur le site historique de la Grave aux îles de la Madeleine. Une femme octogénaire aux cheveux blancs et aux lunettes singulières s'est approchée de moi et n'a pas perdu de temps à manifester la beauté du paysage qui l'entourait. Elle a poursuivi l'échange en prenant le temps de me complimenter sur mon regard et en mentionnant que la jeunesse lui faisait voir grand, que j'avais une chance inouïe de vivre une expérience comme celle-ci à mon jeune âge. Ses paroles m'ont adoucie et sont restées encore à ce jour bien marquées dans ma mémoire. Il s'agissait là d'une infime parcelle de la sagesse et de la lumière que cette femme laisse sur son passage, soit celle de Louise Latraverse.
Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur la planète des sages qui s'est ouvert au son de la voix de notre invitée cette semaine, Béatrice Germain. Bonjour Béatrice, ça
Allô,
va bien?
Allô, ça va toi?
Ben super, on est vraiment content de t'accueillir à la planète des sages pour cette semaine venir nous parler de Louise Latraverse. On est également avec Mélie Brousseau-Gauthier, on a l'habitude de la voir, mais on est toujours content qu'elle soit là, n'est-ce pas Mélie? Ça va bien?
Ben oui, ça va bien, toi.
N'est-ce pas? Est-ce que t'es contente d'être là?
Ben oui!
Parce que moi, je suis content que tu sois là.
Ah ben, moi aussi, ça me fait plaisir.
Mais ben, génial, je suis content que tu sois contente.
Bon ben, hein?
On est tous contents!
Super! Wow.
Et puis, donc, l'émission, normalement, on entend en début la voix de la personne de qui on parle cette semaine, donc on peut aller écouter un petit extrait de Louise Latraverse elle-même.
Courir, courir 10 km, faire de la marche rapide, faire des marathons pour les bonnes causes, s'impliquer socialement, s'impliquer au jour le jour, aider le mieux qu'on peut. Se planter, s'énerver, dépasser sa pensée, perdre et gagner. Avoir du succès parce que sans succès, tu n'es rien et la course folle pour y arriver. Une pompe pour respirer parce que l'angoisse monte. Et comment on fait? Et comment ils font? Ils vont péter aux frettes. On est fous!
Alors, nous entendions Louise Latraverse en 2012 interviewée pour l'émission Médium Large. C'est la voix, comme je le disais, de cette personne, de cette sage dont on parle cette semaine. Béatrice, c'est toi qui as eu l'idée de nous présenter Louise Latraverse. Pourquoi?
Ben, mon Dieu, quelle bonne question! Mais en fait, c'est ça, cette personne-là m'a déjà marquée après ma barre quand je l'avais rencontrée aux îles. Puis je savais pas pourquoi, mais juste par cette rencontre-là ou par cet échange de regards-là que j'ai eu avec cette femme-là, elle m'a directement inspiré la sagesse pour une raison que... Mais là, je comprends un peu plus après les recherches que j'ai faites pourquoi elle m'a inspiré ça, mais c'est ça, je la connaissais pas au départ. Puis c'est vraiment dans le cadre de l'émission que là, j'ai comme plus appris à connaître cette femme-là. Mais je peux faire un petit tour d'horizon là, pour commencer,
oui,
fait que
ben,
connaître...
Ben personnellement, j'ai hâte quand même parce que
oui.
Honnêtement, avant cette semaine, j'avais entendu ce nom-là, Louise Latraverse,
ouais.
Mais personnellement, j'avais vraiment aucune idée c'est qui. Et le fait que tu nous la fasses découvrir, ça m'a justement plongé dans sa biographie, dans son œuvre aussi, toutes les choses auxquelles elle a participé. Et c'est une femme fascinante,
ah,
pour vrai. Je l'écoutais en entrevue hier,
ouais,
pendant mon jogging, parce que je voulais dire que je suis quelqu'un d'en forme et que je cours.
C'est du bien brag.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est du beau brag. mais non, donc c'est ça. Pendant mon jogging, j'écoutais son entrevue avec Franco Novo, 50 minutes, c'est tout récent. Et,
ouais,
et sa vie, chaque chose qu'elle disait, j'étais là, ben voyons donc. Ça m'a complètement renversée. Chez Millie, tu la connaissais pas vraiment aussi?
Mais non, mais je trouve ça vraiment... J'étais vraiment impressionnée par son parcours de vie. Il y a tellement d'anecdotes, tellement de choses qu'elle a fait. J'ai l'impression que c'est une femme qui a tout fait dans la vie, finalement.
Ouais.
Puis c'est drôle parce que pourtant, elle se présente pas de cette façon-là nécessairement. Je pense que quand on... Ben, du moins pour notre génération, si on n'approfondit pas le sujet ou si on s'intéresse pas du moins à la carrière qu'elle a eue dans le passé, on le saurait pas. Sinon, fait que ça me fait plaisir de partager... un petit peu plus à propos de cette femme-là
oui,
aujourd'hui.
Parce qu'il faut dire qu'elle a vécu quand même à une époque qu'on connaît pour bon, c'est certains clichés, mais on, au niveau de la culture populaire, ces personnes-là de cette génération-là, pour nous, en tout cas pour moi, j'ai parlé d'un point de vue personnel, c'est ce que ma mère, tu sais, c'est la génération que ma mère connaît, tu sais, elle a fait des émissions à l'époque où ma mère, mon père écoutait la télévision. Donc moi, quand je, mettons, je l'ai vu probablement par dans des entrevues ou quelque chose comme ça, puis je me disais juste, ah bon, ben, c'est une madame là, qui a fait des émissions des années 60. Ben. et puis, ben, justement, là, comme tu vas nous l'apprendre à l'instant, c'est bien plus que ça.
Ah ouais, c'est bien plus que ça. Fait que c'est ça, si on fait un petit tour d'horizon là, sur la biographie de Louise Latraverse. Elle est née le 24 juin 1940 à Arvida, au Saguenay. Elle est comédienne, auteure, metteuse en scène, animatrice et chroniqueuse. Puis elle est vraiment omniprésente, finalement, dans le paysage culturel au Québec depuis plus de 50 ans. Louise Latraverse, en fait, c'est la deuxième enfant d'une famille de quatre. Puis elle a vraiment grandi dans une famille là, hyper aimante, ouverte d'esprit. Puis à cet âge-là, déjà, elle baignait dans un milieu culturel vraiment omniprésent. Puis ses parents, finalement, se sont jamais opposés à ce qu'elle devienne actrice dans sa vie. Puis très jeune, en fait, elle va déjà connaître un succès au Saguenay. À l'âge de 12 ans, elle va commencer à raconter des contes à la radio du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis elle était déjà connue comme une fille là, hyper allumée, énergique, qui avait une soif d'apprendre, une grande ouverture sur le monde. Tout le monde la connaissait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas mêlant. Par contre, à cette époque-là, son rêve, c'était pas nécessairement de devenir comédienne. Elle voulait plus devenir patineuse artistique comme Barbara Hanscott. Je sais pas si vous la connaissez. Là.
Non, mais peut-être qu'on pourrait faire une prochaine émission sur cette championne.
Je vous lance l'idée comme ça. Barbara Hanscott, notez ça, OK? Bref, le destin amène la famille de Louise Latraverse à Montréal. Puis une fois aménagée, Louise n'était pas nécessairement enchantée là, d'arriver à Montréal parce que c'était vraiment une star. Là. Déjà au Saguenay, elle était comme une déesse. Là. Fait qu'elle arrive à Montréal puis elle est méconnue de tout le monde. Mais très rapidement, elle va commencer à avoir des auditions, notamment pour animer une émission matinale à CKVL. Aux côtés du comédien très respecté de l'époque, Jean Coutu.
Oui, et là, il faut souligner pour tous ceux qui en ce moment pensent qu'on parle d'une pharmacie, Jean Coutu, à ce moment-là, c'est la star au Québec. Il joue, entre autres, le survenant dans la télésérie, là, pas dans le film avec... C'est pas Jean-Nicolas Véro, là, parce que le survenant a été adapté plus récemment avec ce comédien qu'on connaît, mais Jean Coutu, c'est vraiment, vraiment quelqu'un de respecté, de connu. C'est une espèce de DiCaprio québécois de l'époque. Je sais pas si la référence fonctionne.
Ben,
là, mais
tellement. Puis Roy Dupuis, à ce paraître, ne lui arrivait même pas à la cheville.
Oui, oui, c'est ce que Louise Latraverse dit en oui. entrevue. C'est ça, c'est le, ouais. Dupuis n'a pas connu ce succès qu'a eu Jean Coutu pour nous. Ça nous dit pas grand-chose, le jeune vingtenaire que nous sommes.
Non, malheureusement.
Mais c'est pas rien. Tout ça pour dire que c'est vraiment pas rien, puis ce qu'elle expliquait, c'est qu'il l'a vraiment pris sous son aile, donc ça a été pour elle une grande source d'inspiration, puis c'est quelqu'un de généreux qui l'a justement emmené à prendre sa place dans la sphère culturelle québécoise, donc ça a été des années marquantes pour Louise Latraverse.
Ouais, puis il devient en fait une espèce de forme de mentor là, aussi pour Louise à cette époque-là, puis je pense que justement Jean Coutu lui a donné une forme de confiance en elle, puis c'est ce qui l'a mené en fait à aller au Café des artistes toute seule à Montréal. Elle est rentrée dans ce café-là puis elle a rencontré Elisabeth Chouvalidze qui, elle, va aussi la prendre sous son aile et va lui mentionner que Georges Groux donne des cours de théâtre à quelques portes du café. Puis à ce moment-là, elle va monter une audition, elle va aller présenter ça à Georges Groux puis ça va vraiment être son premier contact finalement avec le théâtre. À partir de ce moment-là, sa carrière théâtrale va un peu décoller.
Et encore une fois, bon, on connaît connaît moins ces noms-là, mais on est vraiment dans un milieu culturel important québécois. Et ce qui est remarquable là-dedans, c'est le courage de Louise Latraverse de dire « je vais aller là-bas ». C'est ouais, le café totalement. Des artistes, je sais pas, c'est comme si aujourd'hui... Bon, là, je vais pas faire du name-dropping, mais je sais pas, tout ce qu'on s'imagine comme la sphère culturelle québécoise importante, et puis de faire « moi, je viens d'arriver à Montréal, je fais une petite émission, mais j'ose aller voir ces gens-là, ouais, ouais, leur ouais. parler, faire des contacts, c'est, ça prend du « guts », comme on dit en bon français ».
Mais hein. Puis elle va faire aussi la rencontre de Marcel Dubé, puis ça, ça va vraiment être marquant pour elle. En fait, elle se trouvait dans un restaurant avec des amis, j'imagine, puis elle reçoit sur un apron de papier écrit par Marcel Dubé une espèce de demande là, pour faire partie de son émission de télé qui s'appelle La Côte de Sable. Fait que ça, ça va être son premier contact finalement à la télévision. Je sais pas si vous autres avez déjà reçu une demande d'emploi par un apron.
Non, j'ai déjà reçu un numéro de téléphone sur une napkin, mais pas de... Oui, pour de vrai. Mais,
incroyable!
Mais pas d'offre d'emploi.
Mais c'est un imaginaire hein, pour nous. C'est fou. Excusez, mais je suis juste sur cette émission-là. Je pense que je vais être de même tout le long. Je suis juste fascinée de ma perspective.
Mais on dirait vraiment que sa vie est un film.
Je
c'est
sais.
Incroyable.
Ça arrête pas.
Plein d'anecdotes comme ça, plein de hasards, d'être au bon endroit au bon moment. T'sais, c'est quoi les chances que dans le même restaurant que Marcel Dubé puis qu'il soit comme « Hey, t'as l'air cool, veux-tu
What's
jouer
up?
Dans mon émission?
Ouais. »
C'est quand même fou, là.
Et Marcel Dubé, là, quand même un des plus grands dramaturges québécois, là, entre autres avec la pièce, je crois, c'est « Un simple soldat », si ma mémoire est bonne. « Un simple soldat », exactement, qui est dès 58, là, donc on est vraiment à ce moment-là, une des pièces marquantes de la culture québécoise. Mais c'est aussi une autre façon d'interagir, hein? C'est ça, l'écrire sur un apron, il y a un certain romantisme là-dedans qui est plus difficile à notre époque. Je pense que c'était l'idée de ta question de « ça vous est-tu déjà arrivé? » On imagine très mal ça, nous, on reçoit des textos ou on, je sais pas, mais il y a tout un imaginaire romantique de l'époque. Là. Je sais que plus tard dans sa carrière, certaines de ses liaisons dont tu vas sûrement nous parler avec, entre autres, Claude Léveillé, puis elle parlait que quand Claude Léveillé chantait, il venait déposer une rose sur sa table.
Ah, je savais pas ça.
Ah oui, ah, mais en parlant à l'émission, c'est tellement beau, mais en même temps, c'est ailleurs. Là. C'est presque exotique pour nous.
Ben justement, à ce moment-là, là, quand elle va commencer La Côte de Sable, elle va faire la rencontre de Claude Léveillé, Clémence Desrochers, Pierre Bourgault. Puis ça va vraiment être un moment décisif dans sa vie parce qu'elle va créer des liens hyper serrés avec ces comédiens-là qui sont à ses côtés. Puis ça va vraiment être un franc succès dans sa carrière. Puis c'est là, de fil en aiguille, où elle va récolter comme une majorité de contacts dans l'industrie culturelle.
Mmh. Ouais, effectivement, et c'est à la fois un monde culturel, c'est un monde politique aussi. On est dans beaucoup de changements. Là. Pierre Bourgault, c'est quand même le fondateur là, du RIN. Bon, c'est tout des RIN, si je ne me trompe. Le RIN, en tout cas, ben, c'est des mouvements politiques qui vont finir par donner le PQ. Donc, pour être dans quelque chose de plus connu, là, on les connaît moins, ces premiers embryons de changements politiques. Mais elle baigne là-dedans, donc à la fois, là, c'est ça, dans ce monde en effervescence, au niveau de la culture, au niveau de la politique, on est dans des années charnières au Québec.
Mais c'est ça, juste pour se situer, dans le fond, on est vraiment là, comme dans les années 60-70, qui est vraiment une période de changement et même peut-être de révolution un peu partout en Amérique du Nord. T'sais, autant aux États-Unis, il y a plein de mouvements de contre-culture, autant au Québec, on connaît notre fameuse révolution tranquille. Après, il y a des gens qui considèrent que c'est pas tout à fait vrai que ça a commencé à ce moment-là, que ça existait avant, mais on n'entrera pas dans ces débats sociologiques ce matin.
Oui, mais chose certaine, il se passe quelque chose à ce moment-là, et ce qu'on voit, c'est que Louise Latraverse fait partie du milieu qui est au cœur de ces changements.
Totalement. Ben, je dis pas qu'elle a changé le monde nécessairement, mais elle a contribué quand même à cette effervescence-là autour de la culture québécoise.
Oui, exactement. D'ailleurs, je pense que tu avais un extrait sur ce ouais. passage de sa carrière. Donc, une carrière qu'il faut le dire, n'est pas linéaire, qui, bon, dans le fond, c'est ça, qui est allé un petit peu partout. Mais justement, comme on disait, c'est en plein milieu d'un moment où, pour dire une belle expression que j'adore, les choses se passent à fond. Donc, on va l'entendre elle-même parler de cette période, je crois. Ouais, c'est pendant cette période.
Oui, ben, je pense que au moment où on l'entend, c'est comme une entrevue qu'elle accordait il y a quelques années, mais elle parle du moins de ce passage-là, de cette époque, ouais.
Les années folles passées à ne pas dormir, à danser, à s'éclater, à discuter, à refaire le monde, à trop boire, faire l'amour encore et encore quand ce n'était pas dangereux, s'aimer à la folie, se déchirer, se séparer, recommencer et retourner dans le tourbillon de la vie. Mauvaise mère, coupable qui repart le matin avec un mal de bloc, reconduire son enfant.
Et oui, c'est une époque, comme on disait, on est dans des changements politiques, culturels, mais on est aussi dans une période où il se passe quelque chose au niveau individuel. Il y a un nouveau mode de vie qui est exploré. Et Louise Latraverse, c'est qu'elle est à la fois dans le pan québécois, ce changement, mais elle côtoie aussi le milieu américain, hein, qui quand même exactement. À l'origine d'un tout un imaginaire qui est en train de se faire, de à la fois se déconstruire, donc l'imaginaire peut-être de la société de consommation de l'époque, donc on a les mouvements hippies, les mouvements avant ça beatnik qui déconstruisent ça, et on a la reconstruction de, justement, un nouveau mode de vie, celui qu'elle décrit finalement.
Ben exactement. En fait, c'est qu'à l'âge adulte, elle veut partir à New York pour participer à un film de Gordon Shepard. Mon anglais, ça devient vraiment excellent, ça dit en passant. Puis le film s'appelait Eliza's Horoscope. En tout cas, où elle va faire la rencontre, entre autres, d'Emmett Grogan, qui va arriver un peu devant elle, là, qui va être présentée finalement via d'autres contacts. Elle va le voir arriver et elle va se dire « beau pétard ». C'était vraiment un beau cowboy à ce qui paraît à cette époque-là. C'était...
Oui, et moi, j'ai découvert Emmett Grogan à ouais. cause de justement mes recherches cette semaine sur Louise Latraverse, mais c'est une figure très importante. Là. On parle du fondateur, ben, l'un des fondateurs des Diggers, qui était un mouvement anarchiste américain. Donc, on est vraiment au début là, de la révolution hippie telle qu'on la connaît. Donc, c'est des mouvements qui, justement, cherchent à déconstruire le rapport qu'on a en société, donc nos façons d'interagir. Et eux, ils veulent vraiment aller voir, rencontrer les pauvres, insuffler bon, de l'amour, mais aussi à travers des mouvements qui sont... des mouvements, excusez, des actions qui peuvent être quand même radicales. Là. C'était des criminels, d'une certaine façon. Ils volaient des voitures, et puis ils volaient beaucoup d'affaires, mais ils étaient vraiment dans... C'est ça, toute une... un imaginaire beatnik, on pourrait dire, là, qui est la génération qui vient avant les hippies, la première contre-culture américaine, c'est les beatniks, avec des figures comme Jack Kerouac, qui a fait bon Sur la route. Et puis Grogan, eh bien, lui, est au début de ce qui va suivre, c'est-à-dire ben, les hippies là, avec la génération des 60s, avec Woodstock, et ben, tout ce qu'on peut avoir comme image de ce moment-là dans l'histoire.
Ben oui, puis en plus, elle va faire la rencontre des Rolling Stones, des Beatles, et Bob Dylan. Je comprends pas. Je te dis, je faisais des recherches, là, puis je comprenais pas c'est quoi sa vie. Une fille du Saguenay qui se rend dans des parties avec les Beatles. J'en c'est connais incroyable. Pas des masses, là.
Non, effectivement.
Mais, gars,
hein, ça devait être différente. Fou raide. Genre, moi, je pense à sa vie, puis comme j'aurais tellement aimé ben, ça vivre oui. quelque chose comme ça, tu sais.
Oui, et c'est le même entre-gens, en fait, qui l'amène à, justement, aller au Café des artistes et à parler et à rencontrer des gens comme Marcel Dubé. Ben, c'est le même entre-gens qui fait arriver à New York puis être dans l'appartement du manager de Bob Dylan puis faire parler au monde. C'est tout un rapport, c'est ça, à la socialisation qui est impressionnant, inspirant.
Ouais, puis elle va finir, en fait, par se marier avec Emmett Grogan, puis Elle va s'installer à Brooklyn avec lui pendant quelques années. Ils vont même avoir un enfant qui s'appelle Max. Mais malheureusement, Emmett va mourir d'une crise de cœur dans le métro de New York. Puis là, en faisant mes recherches, on dirait qu'il y a comme deux pans, l'histoire, du moins deux scénarios possibles. Il y en a qui disent qu'il serait mort d'une crise de cœur, puis il y en a d'autres qui disent qu'il serait peut-être mort d'un suicide, en fait. Mais à cette époque-là, ça devait être beaucoup plus tabou, là, la santé mentale.
Et on est aussi... Il y a quelques suppositions d'une overdose d'héroïne.
Ah, ben là, ça le dit pas, là.
Ce qui est tout de même... Ben, j'ai lu à quelques endroits aussi. Okay. Ce qui est quand même logique dans le fait que faire une crise du cœur dans sa trentaine, c'est assez rare. Mais à ce moment-là, Louise Latraverse habite à Montréal, hein, parce qu'elle a voulu que son fils, Max, grandisse à Montréal, je crois. Donc, elle est retournée vivre à Montréal. En étant mariée avec Emmett, mais en quand même élevant son enfant comme une mère monoparentale.
Oui, c'est ça. Ouais, elle a donné naissance à Max à Montréal, puis elle s'est même acheté une maison au Carré Saint-Louis, où finalement il va avoir comme un gros regroupement d'artistes à ce moment-là, Michel Tremblay, Pauline Julien, Dédé Gagnon. Fait qu'elle va vraiment avoir comme une colonie d'amis qui habitent là et ils repeignent le quartier. Ensemble à cette époque-là. C'est vraiment la fête, la débandade, puis il y a plein d'amusement autour de ce quartier-là, certainement.
En parallèle avec le fait qu'elle élève un enfant et qu'elle doit se construire une carrière pour faire vivre cet enfant-là, et c'est une femme quand même qui assume ses responsabilités de mère. Donc, c'est encore une fois, ça l'ajoute du relief. Là. On n'est pas seulement dans une personne qui a fait le party complètement, la grosse défonce des années 60. On parle de quelqu'un qui a à la fois baigné dans un milieu qui était comme ça, mais qui en parallèle devait se trouver des contrats et devait emmener du pain sur la table de son petit.
Wow, la métaphore. Mais non, puis c'est fou parce qu'elle disait qu'aussi à cette époque-là, il y avait vraiment moins de... Les femmes qui travaillaient avaient peu de conciliation par rapport au fait qu'il y avait une famille ou des enfants. Donc, elle était comme à cette époque-là, je pouvais pas dire je dois partir plus tôt parce que je dois aller chercher mon fils à l'école ou des trucs comme ça. Il y avait vraiment aucune tolérance là-dessus. Puis elle disait qu'elle a comme appris à se débrouiller malgré tout. Elle disait que la seule façon d'avoir comme... Une pause, mettons, dans des répétitions pour aller s'occuper de son fils, c'était de dire qu'elle avait un tournage comme pour une publicité ou des trucs comme ça. Comme ça, elle pouvait avoir une bonne excuse, entre guillemets, pour partir, pour en fait s'occuper de son enfant, qui est quand même une bonne excuse, là, je trouve.
Ben, totalement. Puis c'est ça, les femmes à cette époque-là, bien évidemment, on n'avait pas du moins la même vision des femmes à cette époque-là qu'on l'a aujourd'hui. Elles n'avaient pas les mêmes droits non plus. Puis en fait, pour Louise Latraverse, elle n'avait pas de ligne directrice pour sa carrière. T'sais, tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était bien dans ce milieu-là puis qu'elle voulait y passer sa vie, finalement. Elle ne savait pas nécessairement comment elle allait faire, mais elle savait que c'était un monde qu'elle aimait puis qu'elle se trouvait dans une grande famille, finalement, qu'elle appréciait beaucoup. Puis, en fait, à ce même moment-là, elle était vraiment tannée de devoir dépendre des autres. Fait qu'elle a parlé, en fait, à son amie Clémence Desrochers, qu'elle a rencontrée un peu plus tôt dans sa carrière. Puis, elle lui mentionne justement qu'elle a le goût d'être libre, qu'elle a le goût d'être indépendante, qu'elle a le goût de se trouver ses propres rôles au théâtre ou peu importe. Puis finalement, c'est ça. Elle lance l'idée à Clémence Desrochers de monter une pièce de théâtre entre femmes qui va devenir la revue musicale intitulée Les Girls. Fait que c'est ça. Ça va être aux côtés de Diane Dufresne, Paul Bayard, Chantal Renaud. Puis en fait, ça va vraiment être une revue qui va brosser le portrait des femmes des années 60, de la femme ménagère à la femme libre, comme on disait à cette époque-là, avec bien évidemment une touche humoristique.
Oui, c'est le féminisme de deuxième vague qu'on appelle.
On s'embarque un peu dans le débat sur les vagues de féminisme parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Qui est la première vague? Ça dépend. Tout ça pour dire que le féminisme dans les années 60-70, c'est quand même dans l'esprit des gens de manière générale, c'est un peu là que le féminisme s'exprime comme on l'imagine, tu sais. Donc, moi, ce que je trouve quand même fascinant, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens là, qui disent, quand on parle de lutte féministe, ils nous ramènent un peu à ce féminisme-là des années 60-70. Puis on est comme, ouais, dans ce temps-là, les femmes avaient des raisons de se battre, mais tu sais, aujourd'hui, ça va, genre, on a atteint l'égalité ou même le féminisme est allé trop loin. Il y a beaucoup de gens qui défendent ce point de vue-là, mais au contraire, je pense plutôt qu'elles nous ont ouvert la voie puis qu'on ne réalise pas à quel point, à l'époque, c'était difficile là, d'être féministe. C'était vraiment comme marginal. C'était pas un point de vue comme « Ah oui, dans le fond, c'est quand même vrai que les femmes devraient être les égales des hommes. » C'était pas nécessairement tellement répandu. Il y avait encore plein de restrictions dû au fait d'être une femme. Là, je pense, si je me trompe pas, c'est dans les années 60 que les femmes ont pu avoir leur propre compte en banque, là, ce qui est quand même déjà... comme tu sais, pour nous, ça apparaît tellement aberrant, mais à l'époque, c'est sûr que c'est des victoires peut-être plus comme concrètes, plus qu'aujourd'hui, on est comme « Ah, ben là, ben oui, c'est évident que ça a dû changer, puis que ce qu'on vit en ce moment, mettons, dans notre quotidien... nous semble peut-être moins au choquant, mais peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens vont penser à notre vie d'aujourd'hui et faire comme, ben voyons donc, les femmes, ils devaient vivre telle situation. T'sais, fait que, ce que je trouve fou avec ça, c'est que c'est vraiment juste des pionnières, en fait, qui nous ont vraiment ouvert la voie.
Oui, c'est un féminisme qui est très strictement rattaché à justement ce qu'on parlait un peu avant avec le mouvement hippie, donc avec des idéaux de libération. Donc c'est l'idée, je pense qu'à ce moment-là, il y avait une culture qui amenait à dire on veut chaque individu se libérer et là de remarquer les oppressions qui sont inconcevables sur les femmes, donc de dire eh bien, au cœur de ça, on va dire les femmes doivent se libérer, les femmes vont prendre en charge. Et ce qui est beau dans le parcours de Louise Latraverse, c'est que justement, elle, c'est ce qu'elle dit, elle veut pas être attachée, elle veut trouver un moyen de gagner sa vie dans un milieu qui lui plaît, mais sans devoir dépendre là, constamment des autres. Et c'est ce qui l'emmène à être à gauche, à droite, à, par exemple, être la directrice du théâtre des 4 sous, à faire découvrir des gens comme Robert Lepage. On est vraiment dans des années où elle est à l'avant-plan de plein de choses qui vont devenir en rétrospective. Aujourd'hui, on regarde ça, on dit c'est dans les moments les plus importants de l'histoire du théâtre au Québec, entre autres avec aussi la pièce Being at Home with Claude. Donc, c'est elle qui va produire, je crois, ce projet-là qui parle d'homosexualité, qui est vraiment révolutionnaire dans le théâtre québécois. Donc, c'est fou qu'elle soit là. Puis justement, je pense que c'est à la fois l'influence de l'époque, mais aussi elle qui insuffle quelque chose à cette époque-là.
Oui, bien clairement, c'est une effervescence. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là. Puis il y a... C'est quand même assez fascinant, notre point de vue. Je me demande si les gens, si Louise Latraverse et ses compères étaient comme conscients du fait qu'ils vivaient dans une époque aussi qui nous apparaît aussi formidable maintenant.
Eh bien, c'est des questions qu'on va pouvoir continuer à se poser. Puis aussi, là, on voit le côté, je pense, ça nous enthousiasme parce que...
Ah, on pourrait en parler pendant des heures.
Puis il y a aussi Louise Latraverse elle-même, quand on l'entend, parle de cette époque-là avec un enthousiasme, avec un sourire dans la voix, mais c'est pas non plus... C'était pas tous les jours jojo. Donc, on va pouvoir revenir sur cette période-là puis comment l'a vécu la figure de cette semaine, cette chère Louise Latraverse. Mais avant, nous allons écouter quelques pause publicitaire. Nous allons écouter également une chanson, ce sera...
Demain matin, Montréal m'attend.
D'accord, ouais. Et nous allons pouvoir voir en quoi on rattache cette chanson-là à Madame Latraverse. C'est sur la planète des sages à Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie j'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie j'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Étudiantes et étudiants au DESS, à la maîtrise ou au doctorat, ton association étudiante de campus, l'Allier, tient présentement un référendum portant sur la hausse de sa cotisation. Du 20 au 25 novembre, fais valoir ton droit de vote en tant que membre. Surveille ta boîte courriel Ulaval pour trouver ton lien de vote. Informe-toi au allier.ulaval.ca/référendum et passe le mot.
Cette annonce est payée et autorisée par la direction du référendum de l'Allier.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Une nouvelle scène pour les artistes émergents ouvre ses portes à Québec. Le Palais Montcalm vous invite chez Madame Bélé. Une salle feutrée, un lieu chaleureux, une ambiance originale, un espace lounge au cœur de la place Diouville. Pour célébrer l'ouverture, 6 spectacles gratuits mettant en vedette des artistes de Québec. Réservez vite vos billets gratuits au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm vous souhaite la bienvenue chez Madame Bélé.
C'est facile de même.
Ben, ma soeur va m'aider.
Ta soeur, elle va te caler, Louise.
Ma soeur est debout de Saint-Piédestal.
Là, sais-tu ce que ta soeur est obligée de faire pour arriver ce qu'elle a?
Puis elle a tout monté à la Saint-Pied, pas avoir mes dents, monte à côté d'elle.
Ah, puis laissez la donc faire, ça veut se casser la gueule, c'est de ses affaires.
Marcher sa place à Saint-Hubert, rue Sainte-Catherine, puis l'eau à boire.
Tu vas aller manger au pop-up, il y a des notre-dame. Tu vas rencontrer des collègues du retour du petit caresseur.
Demain matin, Montréal l'attend. Demain matin, Montréal l'attend. Cherchez la pluie à Saint-Martin, parce que demain, il y a ça son plan.
Je vais te chercher le mal drapeau.
Tu vas passer au Canadis.
Je vais te mettre à faire des disques.
Les premières pages de Pélado. Je vais aller avec mon trophée. Ils vont tous tomber à mes pieds. Je vais devenir une grosse moderne. Ça pourrait courir vite à fait. Demain matin, Montréal matin. Demain matin, Montréal matin. Cherchez-moi tu à Saint-Martin. Parce que demain, je sacre mon camp. En ville.
La petite toiture, ça va changer. Elle va devenir un gros mythe, puis tout Saint-Martin va parler.
Demain matin, Montréal attend. Demain matin, Montréal attend. Cherchez la pluie à Saint-Martin. Parce que demain, ça sert son temps. Parce que demain, ça sert son temps. Parce que demain, ça sert son temps. En ville.
Alors, c'était Demain matin, Montréal matin, une chanson interprétée ici par Louise Forestier. C'est tiré de la comédie musicale du même nom, écrite par Michel Tremblay. La musique est de François Dompierre. Cette comédie musicale a été produite en 1970 et on remarque que c'est très ancré dans l'époque qu'on est en train de décrire parce que c'est également l'époque de Tremblay qui sera un ami de Louise Latraverse. Louise Louise va jouer dans une de ses pièces. Elle ne sera pas au théâtre, là, trop dans, elle sera pas trop dans le théâtre de Michel Tremblay, mais elle va quand même côtoyer l'homme et puis côtoyer, bien sûr, ben, tout le milieu théâtral de l'époque. C'était ça le choix de la chanson, Béatrice? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter?
Ben, pas nécessairement. Je pense que tu as bien dressé le portrait de cette chanson-là, mais en fait, c'était... Oui, pour nous plonger un peu dans l'époque dans laquelle Louise Latraverse se trouvait à ce moment-là. Puis, en fait, c'est après tout le portrait qu'on a fait de cette femme-là en début d'émission, on comprend vraiment qu'elle a mené une course folle, là, totale et absolue. Puis c'est ça, on comprend aussi, après quelques recherches que j'ai faites, qu'à 40 ans, elle est tombée dans un burn-out parce qu'elle a vraiment trop travaillé puis elle s'est trop démenée, je pense, dans sa carrière. Puis à ce moment-là, en fait, ça a été la plus grande période d'apprentissage pour elle de tomber dans ce burn-out-là. Elle a fait une grosse introspection, un gros travail personnel, notamment à travers des lectures, des voyages, des rencontres, des religions qu'elle s'est intéressée, des amitiés qu'elle a tissées aussi à cette époque-là. Elle a décidé de partir en voyage en Inde aussi pour poursuivre son travail intérieur et pour apprendre l'art de l'aquarelle avec un professeur vraiment marquant pour elle qui va lui mentionner notamment de transmettre le savoir que ce professeur-là lui avait transmis. Puis c'est à son retour à Montréal, finalement, qu'elle va décider d'écrire un livre sur son expérience qui s'intitule « India, mon amour ». Donc, dans ce livre-là, finalement, elle va vraiment parler de l'expérience qui l'a fait grandir, qui l'a enrichi, puis parle de cette expérience-là finalement comme une formation de vie. Puis je pense que ce moment-là dans sa vie, finalement, c'est vraiment comme un élément déclencheur parce qu'après ça, elle va s'intéresser à multiples cultures sous toutes ses formes, finalement. Puis je pense qu'elle est vraiment baignée là-dedans puis elle a beaucoup appris de ça. Elle va s'intéresser notamment à la calligraphie chinoise, aux peintures abstraites, au tai chi. Elle fait même du troc culturel avec ses amis, ce que je trouve génial, soit dit en passant, ouais, comme concept.
Est-ce que tu pourrais le résumer?
Oui, ben, je ne sais pas exactement avec qui elle a fait du troc culturel, mais mettons, là, moi, si j'étais amie avec Louise Latraverse, je ne sais pas vous autres, qu'est-ce que vous lui apprendriez? Moi, je pense que je lui apprendrais le bâton fleur.
Ah ouais, t'as des talents de bâton fleur?
Ouais.
OK. Puis tu voudrais qu'elle t'apprenne quoi en échange?
Ben, qu'elle me parle peut-être davantage de sa sagesse. On dirait que je pourrais continuer.
Oui, parce que ben c'est ça, la notion de truc culturel, comme elle la résume, là, c'est que, par exemple, je crois que c'est avec quelqu'un qui lui apprenait, si je ne m'abuse, le tai chi ou la peinture, je me souviens plus, mais donc quelque chose là, de la culture orientale, c'est vraiment large en ce moment, mais cette personne-là donc venait chez lui, puis au lieu de le payer littéralement pour les apprentissages que la personne lui offrait, ben elle-même, elle l'emmenait au théâtre, par exemple, ou elle l'emmenait, c'est ça, voir des pièces. Donc, ils s'échangeaient leur milieu culturel. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est effectivement quand même alléchant comme idée.
Ben totalement. Puis je pense qu'on peut bien en prendre de ce truc culturel-là. Mais c'est ça, quand elle va s'installer à Montréal, finalement, elle va vraiment comme avoir la piqûre, là. Puis justement, Montréal, c'est comme super bien justement pour la diversité culturelle, là. Puis elle va beaucoup apprendre de tout ça. Elle va rentrer dans des commerces, dans des quartiers pour s'intéresser justement à la diversité culturelle que Montréal lui permet.
Oui, ben je trouve ça beau le lien avec la chanson d'ailleurs, à la fois l'idée de Montréal m'attend comme Montréal comme un défi, parce qu'elle l'a dit quand elle est arrivée, c'était difficile, elle part d'un petit village, c'est un scénario vers lequel je me reconnais beaucoup, d'arriver d'un endroit où c'est tellement petit que dès que tu te distingues un peu, tout le monde te connaît, puis tu arrives quelque part et là tu es aspiré dans la masse, dans ton l'impression d'être dans un océan, tu sais pas où te placer, mais Montréal donc vient représenter un défi où elle s'est fait sa place, et puis après ça, même, elle va développer cet amour pour Montréal. Puis je trouve qu'on revient souvent au même thème, finalement, d'une capacité à s'auto-engendrer une capacité à ressortir, parce que ce que tu résumais de la partie plus sombre de sa vie, eh bien, c'est de dire, là, ça va pas bien, mais bon, je vais me donner les moyens, là, je vais partir en voyage, je vais apprendre des choses. Donc, je trouve que ça revient un peu à la même fibre qui lui a permis d'arriver à Montréal et de se faire une place. Bien, c'est la même fibre qui lui a permis de sortir de des années sombres en faisant, maintenant, je trouve autre chose pour, c'est ça, pour me distinguer, pour me rendre bien.
Mais je trouve ça intéressant, sa capacité qu'elle a vraiment à évoluer en tant qu'humaine, tu sais, de rester profondément elle-même, mais de s'améliorer, de devenir une meilleure personne, autant en s'impliquant dans plein de projets, en touchant à tout, qu'en restant très ouverte d'esprit. C'est une personne qui encore aujourd'hui prend de la place dans les médias pour parler de ce genre de sujet, puis qui est vraiment prête, disons, à changer, à s'améliorer. Puis on parlait de ça dans d'autres épisodes de cette session sur le fait de changer à travers les expériences de vie qu'on traverse. Puis je trouve ça intéressant de le voir pas chez les personnages comme la dernière fois, mais vraiment chez une vraie humaine, finalement.
Mm-hmm. Effectivement, et tu dis, elle prend encore de la place dans les médias. Tout récemment, elle a pris beaucoup de place dans les médias.
À peine.
Pourquoi donc?
Ben c'est ça, elle a fait comme une espèce de retour sur scène, j'ai l'impression. Ben non, sur scène, mais publique, là, sur la place publique, je veux dire, pendant la pandémie. Ça a vraiment été comme une figure, je pense, marquante là, pendant la pandémie. Une grande image d'une femme âgée, mais qui réussissait quand même à trouver plaisir, entre gros guillemets, ou trouver espoir là, dans cette époque-là, un peu de détresse. Là.
Oui, parce que faut le dire, on n'en a pas beaucoup parlé à l'émission de la pandémie, parce que bon, on essaie justement de prendre un regard le plus possible rétrospectif, un pas de recul sur les choses, mais quand même, on se souvient, il y a un an et demi, deux ans, à quel point on parlait des aînés. On en parlait, et on n'en voyait pas. Moi, ça m'a complètement renversé. Je sais que Feu Serge Bouchard, à son émission de l'époque, C'est fou, avec Jean-Philippe Plot, avait parlé de ce phénomène-là. Il avait interviewé un aîné en pleine pandémie pour justement réajuster le tir un peu. Et Louise Latraverse est un visage de personne plus âgée, mais quand même assez âgée, là. Quand même, elle approche le 80 ans en ce moment. Donc, 80,
peut-être un petit peu plus même, 82 peut-être.
82, et puis qui justement a fait sa place, mais là, j'en parle, mais on n'a toujours pas dit pourquoi exactement.
Je gardais le suspense, là. Mais non, en fait, c'est qu'elle va faire son passage à l'émission En direct de l'univers. Et quand l'animatrice France Beaudoin va demander à ses invités ce que la COVID ne réussira pas à leur enlever, la comédienne Louise Latraverse a spontanément répondu « L'amour, Chris ». Je sais pas qu'est-ce que cette réponse-là résonne chez vous. Pour moi, c'est comme... Je sais pas, c'est ça a été vraiment marquant pour moi d'entendre ça, du moins de la part d'une bouche, d'une femme âgée à ce moment-là. On dirait qu'on s'attend pas à ce qu'un sacre...
Mais en même temps, moi, je trouve ça beau parce que c'est d'une simplicité désarmante. C'est tellement simple. Puis en même temps, je pense que pourquoi ça résonne autant chez les gens, c'est que c'est vrai, tu sais. Je trouve qu'à travers la pandémie, même si ça pouvait être une épreuve difficile, j'ai l'impression que les gens ont vraiment voulu se supporter. Il y a eu une solidarité. Puis pour moi, la solidarité, c'est quand même un peu de l'amour. Pour autant, tu sais, de vouloir garder un lien avec tes amis, avec ta famille, que même si tu peux pas les voir, tu veux leur dire qu'ils sont encore dans ta vie, même si physiquement, il n'y a plus de contact. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau. Mmh. Moi, j'ai eu beaucoup de temps dans la pandémie, comme tout le monde, et ça m'a fait réfléchir à la place que les gens ont dans ma vie. Puis ça m'a donné envie de dire au monde que je les aime, qu'ils sont importants. Puis là, ben, je me suis amusée avec ça. Là. J'ai écrit des lettres à des gens pour le fun parce que j'avais plein de temps. Je me suis dit, il fait beau, je vais m'asseoir sur mon balcon puis je vais faire ça. Je pense que, en tout cas, moi, cette phrase-là, c'est ce que ça fait résonner chez moi.
Et on peut juste revenir, moi, je pense, c'est de ces formules un peu sorties intuitivement, ou du moins sans réflexion, mais que quand elle arrive, tu réalises tout l'ampleur et la beauté d'une si simple agencement de deux mots. On a à la fois bon, l'amour, qui est un concept qu'on utilise à outrance, mais qui quand même emmène tout son bagage. Et là, avec un sac, qui est quand même assez ben, une vulgarité, donc quelque chose qui est ben, trash, là, mais je cherche le bon mot, là, comme... Sans flafla, là, vu que c'est assez direct, dire ouais. Un beau Christ.
C'est cru, en fait.
C'est cru, c'est ça le mot que je cherchais. c'est plus la, ouais, le côté cru de la formule, l'amour Christ. Et puis, comme tu le disais, et comme Louise Latraverse elle-même le disait, il y a tout l'anti-casting dans tout ça. On s'attend pas à ce qu'une madame de 80 ans qui se fait interviewer, qui s'est fait connaître aussi, c'est ça, à la télévision, à travers plein de rôles, tu sais. Moi, j'ai écouté des animations qu'elle faisait des années 60 et c'est super formel. On est vraiment à l'époque où on a des femmes bien peignées, bien maquillées, qui parlent dans un français radio-canadien.
Oui.
Donc, tu sais, c'est comme ça qu'on l'a connue. Et puis là, on l'a, plusieurs années plus tard, libérée un peu, tu sais, relax dans son attitude, puis juste faire l'amour crispé. Oui!
Ben, c'est ça, justement, sa réponse a tellement fait réagir, surtout sur les réseaux sociaux, qu'elle a voulu, avec Monique Giroux, faire des chandails confectionnés par une entreprise montréalaise qui s'appelle Petite Gazelle Atelier. Puis finalement, avec ces chandails-là, ils ont fait une levée de fonds pour la maison d'hébergement Simone Monet-Chartrand, qui vient en aide finalement aux femmes victimes de violences conjugales. Ils ont amassé 82 000 $.
Juste avec la vente des chandails.
Oui!
Ouais, c'est fou.
Voyons!
C'est impressionnant.
Et c'est encore une belle preuve, je trouve. Je reviens à ça, l'entre-gens, le fait de faire... Bon, là, j'ai dit une phrase, ça fait parler, mais en plus de rebondir, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ça? Mm-hmm, ça monte encore un aspect de Louise Latraverse tout aussi inspirant que tout ce qu'on dit depuis le début.
Ouais, puis c'est ça, au-delà de la réponse spontanée qu'elle a donnée pendant cette émission-là, tu sais, je pense que durant tout le long de la pandémie, finalement, elle a bien incarné l'image d'une femme âgée forte qui trouve les bons outils ou du moins les bons remèdes pour passer à travers ce moment de solitude imposée-là. Tu sais, elle a transformé ça finalement en... Je sais pas si c'était une quête personnelle ou du moins elle a trouvé les outils, tu sais, pour s'aider à passer au travers. Puis je pense qu'elle était l'image d'une femme âgée pleine de lumière. Puis elle disait vraiment là, ça va bien aller, mais on dirait que de sa bouche à elle, j'y croyais plus que les autres. Là.
C'était peut-être moins galvaudé, c'était vraiment sincère probablement.
Ouais. Mais c'est ça, ça a été comme une source de réconfort pour plusieurs, je pense. Puis justement, tu sais, pendant le confinement, elle disait qu'elle profitait de ce moment-là pour s'émerveiller devant la beauté du monde, la beauté de la nature. Voyons! C'est incroyable!
Oui, puis je tiens à dire que personnellement, pendant la pandémie, j'étais en Beauce et j'ai fait un... de ma région natale, et j'ai fait un projet avec des aînés de justement... dans cette optique-là de « on les entend pas assez », je suis allé chercher leurs paroles, donc j'ai eu des entretiens téléphoniques assez longs avec des personnes âgées en raison. C'est, ce message-là ressortait beaucoup, hein, une résilience face à la situation. C'est pas de dire que tous les aînés l'ont vécu comme ça. On connaît ce que les médias nous ont montré. Et c'est vrai, là, c'était un pan important de la situation des CHSLD où ça n'allait pas bien. Mais quand même, quand on va... à la voix de ces personnes-là qui ont du vécu, qui ont justement grandi de leur vécu, eh bien, on peut trouver quelque chose de beaucoup plus beau que ce qu'on a pu voir dans certains médias de masse.
Oui, puis ben, je pense qu'on oublie souvent que les aînés ont quand même cette sagesse d'avoir beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, que souvent, je trouve qu'on a tendance un peu à reléguer nos aînés dans un coin, de dire ils sont vieux, ils sont dépassés, ils comprennent pas comment ça marche, les ordinateurs. Fait qu'on s'intéresse moins à eux, à ce qu'ils ont à dire, ou on va trouver que leur point de vue sur certains sujets est mettons, plus d'actualité. Mais je pense que dans des trucs qui sont plus grands que justement des enjeux quotidiens, t'sais, vraiment ancré dans notre époque, dans ce qui a trait plus à la vie de manière générale, t'sais, à des grands thèmes comme, par exemple, l'amour. Mais je pense que c'est des gens qui ont quand même des expériences pertinentes puis une parole vraiment intéressante là-dessus.
Et d'ailleurs, la vieillesse, c'est pas un sujet tabou et loin de là chez Louise Latraverse.
Ben ouais, puis c'est ça, elle parle du vieillissement comme une notion là, de paix pour elle. Puis en fait, elle s'est jamais cachée là, du vieillissement, finalement. Elle a toujours vraiment assumé là, ses signes de vieillesse. Je pense, entre autres, au moment où elle a gagné un prix Gémeaux. Je pense que c'était pour son rôle dans La Promesse en 2007. Puis elle est montée sur scène, puis elle a vraiment pris le temps de manifester au public qu'elle était pleine de rides. Ben pas pleine de... Ça sonne super pas bien, là.
On espère que Louise Latraverse nous écoute, mais pas ce segment-là. Non, mais quoi que c'est un peu ce qu'elle dit de vieillir, ça vient avec le fait que la peau se plisse, et je l'assume, on va pouvoir l'entendre, je crois.
Oui, on a un petit extrait, si vous voulez bien.
Oui, ben allons-y, Louise Latraverse elle-même qui parle de ses rides.
Connaissent pas, je m'appelle Louise Latraverse. J'ai 67 ans. Je suis pas remontée, ce qui est rare de nos jours, alors ça vaut très, très cher.
Je suis pas remontée. Encore une fois, on est dans la formulation est super intéressante. Donc, elle veut dire qu'elle n'a pas subi de chirurgie esthétique, pas de botox et tout ça. Ouais. Et ça vaut cher, c'est au sens où finalement, elle assume pleinement son âge. Donc, c'est ce qui lui permet de jouer des rôles de vieille parce qu'elle accepte de vieillir, elle accepte de montrer le fait que ben c'est une personne de 60 ans, 70 à l'époque à peu près.
Ouais. Ben oui, puis en plus dans une entrevue, je pense que j'écoutais justement, elle disait hey, au pire je m'en sac de mes rides, genre au pire justement je vais avoir des rôles de vieille puis les autres vont prendre les rôles de jeune puis moi ça va me faire plaisir de jouer une femme âgée. Mais c'est ça, on sent vraiment qu'elle assume comme pleinement la notion du vieillissement. Puis moi, on dirait qu'après toutes ces paroles-là, je me dis ah, ben, crème, j'ai quasiment hâte de vieillir et puis d'être octogénaire.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de réconfortant dans sa manière de voir le temps qui passe, le fait que quand on vieillit, les choses changent, puis de l'accepter. Mmh. Elle a une grande acceptation de tout ça. Puis moi, je trouve ça vraiment inspirant, honnêtement. Là. J'aspire à être comme ça, puis à pas trop me sentir vieille.
Oui, et une phrase qu'elle a dit, c'est si tu veux vivre longtemps, tu vas avoir des âges différents. Donc, on vieillit à chaque instant. Et c'est surtout le fait de dire ça dans l'espace public. Quand même, je pense qu'on a, en société, je fais une généralisation, mais dans notre monde, on a beaucoup de difficultés avec le principe de vieillissement. On a le culte de la jeunesse éternelle. Donc, c'est des questions qu'on assume, on veut pas regarder en face. La preuve étant justement ce dont elle critique, que tout le milieu des célébrités québécoises, ben même on voit ça aux États-Unis, je sais pas si vous avez vu le truc avec les acteurs de Friends, là. ils acceptent pas de vieillir, là, leur visage, c'est... c'est presque effrayant. Excusez, là, je suis peut-être méchant, mais je pense pas qu'ils nous écoutent, fait que ça va. Mais justement, ça montre ce culte de la jeunesse éternelle-là qu'on a, et ça n'en prend des personnes âgées qui viennent nous dire « Non, regardez, c'est ça la vie. » C'est si simple comme message. Puis je pense que c'est ce qui est beau dans comment Louise Latraverse prend la parole, c'est qu'elle simplifie les choses, mais pas d'une manière négative. C'est plus qu'elle présente les choses avec une certaine candeur.
Mais je trouve qu'en fait, elle les rend accessibles. Mmh. C'est vraiment une de ses forces. Elle parle de plein de sujets, mais d'une façon qui peut vraiment rejoindre tout le monde. Puis que vrai, les gens se sentent toujours interpellés parce que c'est à la fois très simple et très vrai. C'est pas justement, c'est pas en surface, mais c'est juste facile d'accès, je trouve.
Ouais, c'est difficile à expliquer, on dirait, parce que justement, moi aussi, le premier terme qui me vient en tête, c'est simplicité. Mais c'est pas une simplicité qui est négative, là. C'est une simplicité qui est accessible puis qui est belle en même temps. Elle transforme la simplicité en beauté, tu sais.
Puis il y a quelque chose de vraiment authentique là-dedans aussi, tu sais, autant dans son désir d'être comme elle est à l'âge qu'elle a, que dans sa façon de partager son point de vue sur des thèmes comme ça.
Oui, c'est aussi un angle qu'elle choisit de prendre, qu'elle cultive, qui est l'angle de justement, ah, on peut regarder les choses de manière simple, mais en entrevue quand elle raconte toute sa jeunesse, justement, comme on a vu, c'est sa bardasse, là. Ouais. Mère monoparentale à Montréal qui essaie de gagner sa vie par le théâtre. Mais elle le dit de comme, ah ouais, c'était des années spéciales. Et tu vois, t'sais, c'est faux de dire que c'était simple, mais elle choisit d'une certaine façon de le raconter d'une manière simple. Elle parlait entre autres de sa relation avec Claude Léveillé. Et puis, à un moment donné, elle dit quelque chose, comme elle est sortie environ 2 ans avec, puis elle dit, mais moi, j'étais plus capable. Ces hommes-là, c'est des narcissiques. Ils parlaient juste de sa musique tout le temps. Fait que moi, j'avais le goût de jouer dehors. Mais tu sais, la phrase, j'avais le goût de jouer dehors, qu'on peut imaginer tout le bagage que c'est de une situation qui était probablement pas très cool à tous les niveaux. Être avec un homme narcissique qui pense juste à sa musique, ça devait pas être plaisant, mais elle dit, ben, je suis partie parce que j'avais le goût de jouer dehors.
Ben, puis la notion du vieillissement aussi vient avec la compréhension de soi. Tu sais, plus on vieillit, plus on se connaît. Plus on se connaît, plus on est bien. Puis la façon dont elle parle de sa jeunesse aussi, c'était une grande période d'angoisse, d'incertitude, où elle se posait mille et une questions. Puis c'est pas nécessairement une époque dans laquelle elle voudrait retourner. Fait qu'on comprend finalement que vieillir pour elle, c'est beau. Il faut l'accepter. Puis
vieillir et mourir aussi. Et là, moi, ça, c'est le pas de plus, je trouve, parce que, ben, tantôt, je le disais, dans l'espace médiatique, on entend rarement parler de vieillesse, mais d'autant plus, on entend rarement parler de mort, comme Louise Latraverse en parle.
Ouais, elle ose en parler, en fait, sur la scène publique, puis c'est encore une fois tellement beau comment elle imagine la mort. Puis en fait, c'est que elle parle de la vie comme si ça lui a permis de devenir une meilleure personne au moment de sa mort, t'sais. Donc tout le bagage qu'elle transporte, finalement, c'est ça, c'est que pour que sa mort soit juste plus belle, finalement. Mais encore une fois, c'est ça, c'est qu'elle a une simplicité dans ses mots puis une beauté qui est vraiment agréable d'entendre.
Puis je pense qu'elle est très sereine par rapport à ça, ou en tout cas, elle semble très sereine. La manière qu'elle en parle, elle semble vraiment en paix avec ça. Puis ça aussi, ouais, c'est inspirant, parce que ça peut être un sujet quand même assez grand d'angoisse, le fait qu'on veut mourir un jour. Je pense que ça habite beaucoup de gens, pas d'une façon très, très empreinte de sérénité. Donc, de voir quelqu'un qui est à l'aise d'en parler dans des endroits où on n'en parle pas nécessairement souvent, puis qu'il en parle avec justement cette simplicité-là, cette sérénité-là, il y a quelque chose de beau et de rassurant, encore une fois, dans ses propos.
Et un aspect à cela qu'on n'a pas pu élaborer plus, parce que on le voit, il y avait tellement de choses à dire, mais reste que c'est quelqu'un qui a fait sa vie majoritairement dans le milieu du théâtre, même si elle a fait 1 million d'autres affaires. Et je trouve que dans son rapport à la mort, il y a le regard de la comédienne, de l'actrice, qui est intéressant à voir. Elle a dit une phrase, ça m'a ébloui, c'est « Moi, je veux réussir ma sortie, sortir de la vie comme on sort de scène. Après tout, la vie continue après la tombée du rideau. » Donc, cette image-là de la vie comme un théâtre, bon, c'est pas extrêmement neutre. Shakespeare lui-même disait quelque chose comme « La vie, c'est un théâtre. Il y a une entrée en scène, une sortie. » Mais je trouve que c'est une façon de regarder son existence quand même très belle. Et puis, justement, ça prend une actrice ou un acteur pour en parler avec autant d'authenticité.
Ça prend de la sagesse aussi, peut-être?
Exactement. D'ailleurs, on aurait pu parler encore de Louise pendant très, très, très longtemps. On fera peut-être un épisode 2. On le dit à chaque fois, hein, qu'on veut faire des doubles épisodes.
On le fait pour vrai. Je vais revenir.
Mais bon, donc, c'était Louise Latraverse cette semaine. Béatrice, en conclusion, qu'est-ce que tu veux nous laisser? Comment on doit revenir chez nous? Ben, les gens, je ne sais pas, dans leur retour, hein, la vie en ce moment, là, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de Louise Latraverse?
Ben, ils doivent retenir tellement de choses, mais je souhaite à tout le monde, tout comme moi, de rencontrer Louise Latraverse, qu'elle passe sur votre chemin, parce que c'est vraiment l'image même, selon moi, de la sagesse de Louise Latraverse.
Merci beaucoup, Béatrice Germain, d'être venue nous voir.
Merci à vous.
nous parler, de nous faire découvrir. C'est vraiment une découverte cette semaine. Merci, Millie Brousseau-Gauthier, d'être là. Tu seras là également la semaine prochaine pour nous parler de...
On va parler de Richard Brautigan.
Exactement. Donc, manquez pas ça. C'est un poète, un écrivain américain, le dernier beat. Il y a même des liens à faire avec Louise à travers. On les fera peut-être la semaine prochaine. On vous remercie beaucoup. On est là à tous les jeudis à partir de 10h. Sinon, on est sur iTunes, Spotify, le site de Shiz.
Mais c'est à partir de 11h.
À partir de 11h.
Léger détail.
Enfin, à Shiz 94.3. Merci. À la semaine prochaine.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bonjour à toute la communauté étudiante. Je vous invite à suivre la page Facebook Bâtir pour l'avenir pour la hausse de la cotisation CADEL qui vous permettra de rester informé de toutes les activités du comité en faveur de la hausse au référendum des étudiants du premier cycle. Je vous informe également que nous ferons la tournée des pavillons du 17 au 25 novembre et que toute hausse adoptée lors du référendum mettra sur pied un grand projet de logement par les étudiants pour les étudiants à proximité du campus. Au plaisir de vous y voir!
Bord de la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but.
Cette fin de semaine, vos remparts sont dans les Maritimes. Pour débuter ce voyage, les Diables Rouges affrontent le Wildcats de Moncton ce jeudi 18h, heure de l'Est. Ne manquez pas l'avant-match dès 17h45. Remparts contre Wildcats ce jeudi 18h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1.